des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Fruit du hasard pour les uns, coup de pouce du destin pour les autres, les événements imprévisibles ont de tout temps fasciné les hommes. Les rencontres que nous faisons tout au long de notre vie sont sans doute la manifestation la plus troublante de ce hasard. Eh bien, c'est le sujet qui nous intéressera, le docteur Dominique Demichel et moi-même, pour les prochaines émissions.
Je peux vous renseigner ?
Non, merci, je regarde.
Bien. Il n'est pas génial, ce livre-là. Si en le feuilletant, vous étiez tenté de le prendre, ne vaut pas son prix. Si vous cherchez quelque chose sur la Turquie, en revanche, celui-là est excellent. Je pense que l'auteur est allé réellement en Turquie, ce qui est un avantage. Il raconte un épisode très drôle avec un kebab, parmi une foule d'autres anecdotes.
Merci, je vais réfléchir.
Ou alors, en livre relié, vous avez celui-ci. Je vous prie de m'excuser, je reviens.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. Say nothing at all.
Coup de foudre à Notting Hill. Et oui, quand on parle de rencontre, on pense tout de suite à la rencontre amoureuse. Dans cet extrait, Hugh Grant rencontre pour la première fois la belle Julia Roberts dans une librairie. Mais nous ne parlerons pas dans cette émission des rencontres amoureuses que nous aborderons plus tard. Mais il faut bien l'avouer que ce genre de rencontre est voué au plus grand des hasards. Docteur Dominique Demichel, en effet, une rencontre, c'est d'abord du hasard. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion qui a interrogé l'être humain depuis sûrement la nuit des temps. Qu'est-ce que le hasard ?
Oui, il y a deux espaces contradictoires. D'abord, la définition du hasard, normalement, c'est, il me semble, même si je ne suis pas tout à fait un vrai scientifique, je pense que les gens disent que le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes. Ça veut dire quoi, des séries causales? Ça veut dire qu'il y a A qui entraîne B, qui entraîne C, qui entraîne D. Voilà, ça c'est une logique, hein. Aujourd'hui, il pleut, donc je vais prendre un parapluie, puis ma voiture, puis je vais glisser parce que c'est le terrain est mouillé et je vais me faire mal aux pieds. Voilà, une série causale. Et puis l'autre série causale, c'est A' entraîne B', entraîne C', entraîne D', c'est-à-dire, je sais pas, la voisine a sorti ses poubelles à ce moment, enfin pas la voisine, mais la dame dans la rue a sorti ses poubelles, et puis comme il y avait de la boue, elle avait du mal à déplacer son chariot, je suis tombé et je me suis tordu le pied, je me suis fait mal juste devant sa poubelle. Et puis elle m'a aidé à me relever, ça allait mieux, et ensuite je l'ai aidé à pousser sa poubelle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle a remarqué quelque chose, elle m'a dit, tiens, vous avez trouvé ça à quel endroit? Et il s'est passé quelque chose à la suite. Voilà.
Un coup de
Et on,
foudre.
par exemple, un coup de foudre, exactement. Tout
Qu'on
à fait.
s'entende bien, là on prend des exemples de tous les jours, mais le hasard a fait et défait des empires. On pense le début de la Première Guerre mondiale, si l'attentat n'avait pas réussi à Sarajevo, si la balle était passée un peu trop près, un peu trop loin, le cours de l'histoire aurait été changé. Pareil pour Henri IV, il
Oui.
paraît qu'il était un petit peu en retard, ou enfin il y a des. C'est du hasard ça.
Oui, vraisemblablement, c'est tout à fait du hasard. L'autre tension par rapport à ça, enfin, c'est du hasard dans le sens où on a le sentiment que cet événement-là a eu une conséquence importante sur l'histoire, que ce soit l'histoire individuelle, familiale ou, comme vous le disiez, l'histoire mondiale par exemple, et que l'événement en lui-même, on peut penser qu'il a été essentiellement déterminant pour la suite. L'autre tension par rapport à ça, c'est de se dire qu'il y a une sorte de globalité dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de causalité qui sont interdépendants, non pas dans une causalité directe, ça veut dire par exemple, je prends le stylo que je tiens dans la main, je le lâche et obligatoirement il va tomber, il n'y a pas d'autre possibilité globalement, mais que, comme dit la formule habituelle, je crois, un bruissement de papillon à un endroit du monde peut déclencher une tornade ou un cyclone à l'autre bout de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il y a des enjeux de liens, de relations, avec des enjeux de causalité, des enjeux de causalité qui peuvent être des causalités fortes, extrêmement puissantes. L'exemple que vous donniez, avec l'assassinat de l'archiduc, par exemple, ou des interactions qui sont des interactions faibles, c'est-à-dire il va rien se passer, il peut rien se passer, puisque là, ça n'est plus l'objectivité de l'événement. Tiens, je vois que votre stylo justement vient de tomber, comme une espèce de drôle de coïncidence. Ça n'est plus à ce moment-là une causalité forte avec une interaction. J'allais dire objective, c'est-à-dire de toute façon cet événement à Sarajevo ne pouvait pas être sans conséquence, mais c'est plus la subjectivité de chacun, la rencontre, la disponibilité, l'état d'humeur, l'état d'âme qui fait qu'il va se passer quelque chose, hein. Donc oui, je crois que la notion de hasard, elle est une vraie notion, on pourrait dire, scientifique, ça veut dire qu'il y a deux éléments qui suivent, enfin deux événements qui suivent des causalités qui leur sont propres, qui sont rigoureuses.
Qui pourrait presque être calculable avec les probabilités, par exemple.
Voilà, exactement, tout à fait, hein. Même dans les jeux de hasard, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est calculable. D'ailleurs, à ce propos-là, on pourrait se dire que le hasard, ça peut dire aussi quelque chose de l'ordre d'une incertitude. On prend un dé avec de 1 à 6 ici, et puis on le lance sur la table. Il n'est pas impossible que si on avait un ordinateur extrêmement puissant qui tenait en compte les caractéristiques de notre main, de l'humidité, du poids, de la structure de la table, on pourrait prédire avec une certitude peut-être relativement, pas une certitude, une incertitude plutôt relativement faible, le fait que ce soit le 1, le 6, le 3 ou un autre chiffre qui arrive. Et donc ici, cette notion d'incertitude renvoie à l'idée du hasard. Moi, personnellement, je ne crois pas que le hasard soit lié simplement au fait qu'on n'est pas capable de prédire à l'avance, parce qu'on n'est pas capable de le penser. Je pense qu'il y a une ouverture possible dans tous les événements de la vie. Il y a des événements qui sont très liés à un enchaînement de causalité qui se tient, qui est rigoureux. Voilà. Quand un matin il pleut, ben il y a des choses qui ont plus de chances de se passer. Et s'il fait très beau, il y a d'autres chances qui ont beaucoup plus de chances de se passer.
Et ça, c'est le point de vue de Jung également, cette chaîne de causalité?
Non, non. Le point de vue de Jung est différent. Lui, il dit que... il va appeler la rencontre de deux séries causales qui font du sens, il va appeler ça une synchronicité. Ça veut dire qu'il va y avoir une rencontre et que pour les acteurs de cette rencontre, ça va faire du sens. Ça va faire un sens particulier et c'est un sens qui ne va pas être juste anecdotique, c'est-à-dire j'ai perdu mon stylo, quelqu'un marche derrière, monsieur, vous avez perdu votre stylo, il me le rend. Point. Voilà, c'est une sorte de hasard, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences. Merci monsieur, je vous remercie pour votre vigilance et votre amabilité. Mais il va y avoir quelque chose qui va transformer un petit peu, beaucoup, voire profondément, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, dans une rencontre amoureuse, par exemple. Oui. Voilà. Donc là,
l'occasion d'en reparler du point de vue de Jung sur...
Donc Jung reparle de cette synchronicité en tant que causalité qui fait du sens, mais qui fait du sens subjectivement. C'est-à-dire, on filme les choses, il ne s'est rien passé, juste un monsieur rencontre une dame, point, puis j'ai rien vu du tout. Mais pour les acteurs, voilà, comme dans cette librairie-là, ça va changer leur vie.
Alors, deux chaînes causales, l'une à côté de l'autre, soudain se rencontrent. Évidemment, oui. C'est donc le thème de notre émission. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine du mot rencontre ?
Oui, je crois que ça vaut le coup de revenir sur cette origine parce que c'est un mot qui remonte à peu près au XIIe siècle et qui évoque, d'ailleurs j'en parlais il y a peu de temps, là, il y a quelques minutes, un coup de dé, voire quelque chose qui est de l'ordre d'un combat. D'ailleurs, on retrouve ça dans l'idée que dans rencontre, il y a contre, il y a le mot contre, donc il y a l'idée un peu d'opposition. Ou on peut dire aussi malencontreusement, hein, ça veut dire il y a un mal, il y a une rencontre, mais il y a un contre qui est bien dedans. Alors, comme on vient de le dire, la rencontre, ça évoque essentiellement le hasard, une espèce d'événement fortuit qui arrive. On se trouve dans une situation précise, et là, il va y avoir, si on repart du mot contre, il va y avoir une confrontation. Une confrontation de deux personnes, ou d'une personne avec un événement, ou d'une personne avec un livre, dans l'exemple que vous avez mis là pour commencer, même si le livre est peut-être un prétexte, voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ce livre. Et puis chacun de nous, on sait que de temps en temps, juste avant qu'on commence l'émission, je vous parlais d'un livre que je suis en train de lire qui me plaît beaucoup et m'apporte, j'ai l'impression. Mais de temps en temps, c'est, je sais pas, moi je me souviens très bien la première fois où j'ai écouté la News Day de Barber, je me souviens le lieu où j'étais, c'est une œuvre voilà, qui je trouve très, très envoûtante avec quelque chose. Voilà. Donc ça peut être aussi cette
rencontre. Oui, qu'on soit bien d'accord, on parle de rencontre entre deux personnes, mais on parle également de rencontre avec une œuvre d'art, comme vous l'avez dit,
voilà.
avec
un film, avec une film, musique,
un événement, avec un...
Voilà, avec une peinture, une toile, hein, de temps en temps. Voilà, je me souviens, pour donner encore des exemples, je suis allé peut-être il y a une quinzaine d'années, je suis allé voir au Louvre le radeau de la Méduse. Bon, bah, tout le monde connaît ce tableau depuis qu'il est petit, hein, mais le voir de vrai devant soi, c'est autre chose.
Il y a une rencontre qui s'est passée.
Voilà, il y a quelque chose et ça reste dans mes mémoires comme quelque chose avec une grande densité. Alors en même temps, de temps en temps, il y a le contre, mais il y a aussi un autre espace qui est que la rencontre peut être chargée pas dans le malencontreusement, mais dans quelque chose qui peut être un petit peu banalisé. Hein, voilà, c'est-à-dire la rencontre, c'est pas toujours la grande rencontre amoureuse ou un film qui a changé ma vie, par exemple, hein, ou une lecture qui a changé ma vie, mais ça peut être quelque chose de... Voilà, oh bah c'est une affection de rencontre, c'était un achat de rencontre, où on peut dire, parfois c'était une simple rencontre, voilà. Et puis on a bien discuté dans le train, et puis voilà, puis on s'est quitté, et puis c'est tout. Donc elle est à ce moment-là qualifiée un petit peu de sans importance. On la réfère à ce moment-là à un hasard qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de sens, qui ne fait pas sens pour nous, qui n'a pas une charge émotionnelle ou affective. En tout cas, la rencontre, c'est le fait pour deux entités de se trouver en contact, d'être approchées, un peu, on pourrait dire, par hasard, mais si on en parle, si ça reste à l'intérieur de soi, c'est qu'il y a une charge émotionnelle Donc, il y a autre chose.
Et la rencontre peut être aussi un choix, une rencontre sportive, par exemple. On choisit de se rencontrer sur un terrain.
Voilà, voilà, tout à fait. D'ailleurs,
forcément le hasard.
De temps en temps, on peut dire, tiens, je t'ai arrangé une rencontre. Voilà, je t'ai arrangé une rencontre. Alors, de temps en temps, ça peut être, je t'ai arrangé une rencontre avec ton patron, tu vas pouvoir lui dire un petit peu ce que tu as sur le cœur. Hein. Je t'ai ménagé une rencontre. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a aussi, dans l'histoire du ménage, il y a quelque chose de l'ordre dans le sens du couple, mettons. Voilà. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, il me semble, peut-être dans cette première partie autour de la rencontre, c'est que ce qui vient être avant tout le contenu le plus essentiel de la rencontre, c'est la charge émotionnelle. Hein. C'est ce qui fait que ça va rester.
Alors, j'ai choisi de m'intéresser à la Chine, non pas parce que ce serait le plus distant, le plus différent, non pas du tout. Pour une raison plus simple, parce qu'on ne peut pas comparer quel est le plus distant, le plus différent, qu'est-ce que j'en sais, et qui en sait quelque chose, mais plutôt le fait que la Chine était ailleurs. Ailleurs, deux ailleurs. Un ailleurs par l'histoire, puisqu'on sait tous que le monde européen s'est développé indépendamment de la Chine jusqu'à l'époque tardive, et un ailleurs de la langue, tout le monde le sait aussi, le chinois n'est pas une langue indo-européenne, mais d'un autre, une famille de langues, et aussi que l'écriture chinoise n'est pas phonétique, est idéographique, etc. Donc la Chine constituait l'autre bout du grand continent, mais écarté. Alors bien sûr, il y a eu la route de la soie, bien sûr, il y a eu Marco Polo, mais il a fallu, pour qu'il y ait un début de rencontre entre l'Europe et la Chine, eh bien que les missionnaires aillent en Chine, qu'ils aillent par voie de mer, qu'ils débarquent en Chine. Et ça, c'est début XVIe siècle. Donc très tardivement par rapport à l'histoire des deux cultures, et la rencontre effective n'est qu'au XIXe siècle.
François Julien, que vous venez d'entendre, extrait d'une émission diffusée sur France Culture, est philosophe et sinologue. Toute sa vie, il s'est intéressé à cet écart, à cette tension que créent l'éloignement et la différence, non pas pour comparer, mais pour essayer de dessiner un espace commun à toute l'humanité. Docteur Dominique Desmichel, là nous sommes face à quelqu'un qui choisit, qui fait le choix d'une rencontre vers une autre civilisation. Très différente de la sienne, même s'il ne compare pas les différences, en tout cas il parle d'un ailleurs, qui va lui permettre dans cette altérité de découvrir autre chose.
Oui, et puis il évoque aussi la langue, donc c'est vrai que dans la rencontre, il ne s'agit pas parfois du hasard, il s'agit d'un choix, hein. Je décide d'aller marcher vers... pas trop quoi, cette personne avec laquelle j'ai des difficultés pour lui parler, ou je décide d'aller à la rencontre de la civilisation de Mésoamérique, par exemple, pour comprendre ce qui a pu se passer à une certaine époque. Donc, et puis de temps en temps, c'est tout simple et proche, c'est je vais aussi à une rencontre sportive, voilà, une rencontre professionnelle, une rencontre d'un débat philosophique ou autre chose. Ce que je trouve qui est aussi intéressant dans l'extrait que vous avez mis, c'est la question de la langue. Parce que cette rencontre, on la rencontre, dans la langue, hein, que ce soit, par exemple, dans les jeux de mots, où il y a une sphère de rencontre entre deux, quelque chose qui donne du sens, et au fond, c'est que la rencontre. Voilà.
La fameuse image poétique surréaliste, voilà. Du parapluie et puis de la machine à coudre.
Oui, voilà, tout
qui
à
crée,
fait.
Qui crée une autre réalité.
Exactement. Voilà. On retrouve ça aussi dans l'oxymore. Hein. Par exemple, quand on dit une douce tempête, par exemple, eh ben, on voit bien qu'il y a deux choses qui se rencontrent là, et on a envie de se dire une douce tempête, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ou c'est doux, ou c'est une tempête, mais voilà. Et donc, dans la rencontre de ces deux mots, il y a quelque chose qui vient faire du sens. Et je me souviens, moi... à propos de douce tempête, d'un patient qui était tout à fait en fin de vie et qui m'a raconté un rêve. Et c'était ces mots, je ne sais plus si c'est le mot doux, mais peut-être c'était une tempête tranquille. Il y avait quelque chose comme ça. Et puis son bateau allait couler. Il était tout seul au milieu de la mer. Et voilà. Donc il y a cette chose-là.
Alors, il y a cette idée donc, dans la rencontre de la confrontation,
oui.
De l'épreuve également.
Oui.
Et là, dans l'extrait de François Julien, c'est donc la confrontation de deux mondes.
Oui.
Qui va entraîner quoi, justement?
Ben, je m'attarderai un tout petit peu sur l'idée de la langue, hein, parce qu'il insiste là-dessus, au fond, et il a l'air de dire que, justement, l'altérité radicale de cette langue est peut-être l'objet pour lui de l'expérience d'une rencontre radicalement différente. Et je me rappelle cette expérience absolument horrible qui a été faite il y a plusieurs décennies, où on s'est dit, si on coupe les enfants de la moindre rencontre, qu'est-ce qu'ils vont parler comme langue? Alors bon, on n'oserait plus faire ça, on demanderait un comité d'éthique qui dirait, oh, faut vite aller consulter là pour... Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces enfants, ils étaient muets, quoi, c'était terrible. Donc on voit bien que... Aussi, notre propre subjectivité n'est qu'une intersubjectivité. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, on peut se dire que probablement l'essentiel de ce qui nous ouvre au monde repose sur la rencontre. Et comme vous le dites, et on peut passer un petit peu de temps là-dessus, même si cette rencontre est le plus souvent ce qui va nous fonder, ce qui va définir notre identité, ce qui va définir nos choix de vie, on aura l'occasion, je pense, de le reprendre, c'est aussi souvent une épreuve dès qu'elle rejoint quelque chose d'essentiel pour nous. Pourquoi une épreuve? Parce que, comme le dit François Julien, c'est l'expérience d'une différence, c'est le choc de deux individus, de deux personnes. Donc l'expérience de l'altérité. Et l'altérité, c'est jamais simple, hein. C'est toujours plus simple de partager quelque chose avec quelqu'un qui a les mêmes menus que vous, les mêmes loisirs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes opinions politiques, en gros, les mêmes valeurs. Voilà. Simplement, ça risque d'être un petit peu ennuyeux et on va pas s'ouvrir à grand-chose et en général pas tellement grandir. Donc je crois que la connaissance de l'autre, la rencontre de l'autre, elle passe par l'acceptation de sa différence, l'intégration d'une part de cette différence. Et je crois que toute vraie rencontre se fait dans cette profondeur-là. Il n'y a pas de vraie rencontre dans quelque chose de superficiel. On peut se dire, on va revenir après sur les histoires de rôle et de place de chacun, mais on peut se dire par exemple, ah ben j'ai pris le train entre Paris et Bordeaux, il y en avait pour 3 heures ou 5 heures, je ne sais pas trop, et puis j'ai fait une belle rencontre parce que, voilà, on a bien discuté, ça peut être, j'ai pu raconter ma vie à quelqu'un qui l'a écouté, ou au contraire, il y a quelqu'un qui m'a raconté sa vie et j'ai écouté une histoire absolument passionnante.
Alors là, je pourrais vous opposer toutes les barrières qui se mettent à une belle rencontre comme celle-ci, c'est-à-dire notre besoin de paraître souvent, les remparts que nous mettons pour nous protéger de notre intériorité la plus profonde.
Oui, c'est-à-dire les obstacles à la rencontre relèvent de à la fois d'une nécessité et en effet d'un risque. Hein. La nécessité, c'est l'idée de garder sa propre intimité, de garder sa propre intériorité et de ne pas se laisser envahir par le désir de l'autre, par exemple. Hein. Donc cette protection, elle est tout à fait nécessaire. Mais de temps en temps, en effet, nos propres angoisses, nos propres peurs, nos propres questionnements, ou j'allais dire peut-être plus en amont de ça, nos propres expériences des rencontres font que parfois c'est difficile d'accepter cette altérité. Hein. Et d'ailleurs, on peut probablement penser que notre capacité à la rencontre est énormément déterminée par l'accumulation des expériences de rencontres que l'on a eues. Hein. Et en gros, lorsque dans sa vie, on a soi-même une bonne rencontre avec soi-même, hein, c'est-à-dire une bonne relation avec soi-même, et quand on a fait l'expérience de rencontres qui étaient ouvertes, enrichissantes, quand bien même elles auraient pu être dans une forme de combat, de confrontation, d'altérité difficile à... Voilà. Alors, en général, on est plus ouvert à la rencontre.
Alors, pour reprendre votre exemple du train, dans quelle attitude je dois être intérieurement pour accueillir une belle rencontre? Est-ce que c'est de la curiosité, simplement? Est-ce que c'est voir un côté un peu envahissant par rapport au passager à côté de moi?
Je sais pas, il y a plusieurs éléments dans votre question. Je pense que cette aptitude à la rencontre, c'est une chance. Mais cette aptitude à la rencontre, elle doit être, quant à la possibilité de sa mise en scène, elle doit être décidée par notre moi. Je vais vous donner un exemple très classique, hein, même par rapport aux gens que j'ai vus ce matin à ma consultation à l'hôpital. La très grande majorité des soignants sont des gens qui vont avoir comme loi intérieure d'être ouvert à l'autre, d'être ouvert à la rencontre et d'aider l'autre. C'est quelque chose qui est en général tout à fait généreux, qui est souvent altruiste et qui, comme toujours, est horriblement louche. Et tant mieux que ça soit d'ailleurs horriblement louche, hein, parce que ça permet de pas avoir de pas poser cette aptitude à la rencontre dans quelque chose qui serait totalement gratuit ou qui serait juste utilitaire. Par exemple, il faut bien que je gagne ma vie. Mais dans une sorte d'enjeu existentiel où le désir de la rencontre est inscrit au cœur le plus profond de l'humain. Alors, c'est tant mieux, et en même temps, de temps en temps, cette capacité à tenir la rencontre dans un espace juste, c'est pas toujours simple. Et comme je dis souvent, les soignants, ils ont toujours un bon saint prêt à donner à l'autre en lui disant « viens donc t'aider ». Hein ? Donc, vous voyez, dans cette rencontre-là, l'aptitude à la rencontre, c'est une grande chance, à condition que ça soit pas trop une nécessité non plus. Hein. On a toujours les avantages de ses défauts. Hein. Par exemple, l'individualiste, eh ben, il sait bien se protéger. Et on a toujours les inconvénients de ses qualités. C'est-à-dire l'altruiste, eh ben, il sait pas toujours très bien se protéger et s'occuper de lui-même.
Docteur Dominique Desmichel, alors attention dans la rencontre, pour qu'elle soit belle, à qu'il y ait un véritable échange également.
Oui. Oui,
c'est important, ça. La conversation, il y a une idée d'échange.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est tout à fait important. Il y a une idée d'échange pour une forme de rencontre. Parce que, comment je pourrais dire? Là, par exemple, je suis parti en voyage à l'étranger, là. Et pendant le voyage, il y avait un homme plutôt qui était seul, plutôt introverti, pas très bavard. Et je pense qu'il aurait pu passer la semaine au milieu du groupe, presque sans dire un mot. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'avais une sorte de curiosité. Vous évoquiez la question de la curiosité. Et donc, je suis allé discuter avec lui. Et je suis tombé sur, je ne vais pas en dire trop grand-chose, mais en gros, je suis tombé sur un universitaire très savant, avec un grand doctorat d'histoire, d'un élève, d'un grand historien connu français. Si jamais il écoute l'émission, je n'en dis pas beaucoup plus. Donc, au fond, il m'a raconté un petit peu des tas de choses. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Donc, il y a quelque chose de ça qui va être ancré ici dans la curiosité. Mais l'essentiel des plus belles rencontres, ça se fait au cœur du tragique. C'est-à-dire, si dans ce train entre Paris et Bordeaux, pendant la durée du trajet, l'un va raconter quelque chose de l'ordre de sa blessure, de son nombre, des deuils, le plus souvent, il va y avoir une densité de la rencontre telle que, le plus souvent, chacun des protagonistes va partir avec l'idée que c'était une belle rencontre. Et même si une rencontre, pour qu'elle se prolonge, doit être dans une forme de réciprocité, de temps en temps, il arrive que l'échange soit très asymétrique, très unilatéral, et que pour celui qui donne, ce soit une belle rencontre, et pour celui qui reçoit, ça soit aussi une belle rencontre. Comme si la tranche de vie racontée par celui qui était blessé et qui l'avait raconté, venait aussi nourrir quelque chose de l'être de celui qui la reçoit. Comme si celui qui avait parlé d'un deuil récent, comme une patiente ce matin qui m'a raconté quelque chose autour de la mort de sa mère, pouvait être dans ce récit même quelque chose qui était aussi quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, cette dame qui venait pour ce pourquoi je consulte à l'hôpital, eh bien, me disait « Mais j'aime bien venir vous raconter à vous, ça. » Voilà. Donc, elle devait penser que cet espace-là était un espace propice à une rencontre. Donc, je crois que pour que ça dure, il faut en effet une réciprocité. Pour qu'il y ait un vrai contenu, il faut se rappeler que l'essentiel des grandes rencontres sont toujours du côté de l'existentiel. Et l'espace où l'existentiel est le plus mis à l'épreuve, c'est quand même souvent le tragique dans le sens large du terme.
Des mots pour le dire, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour poursuivre notre série d'émissions sur la rencontre. D'ici là, portez-vous bien.
I've seen the end of the day come too soon. Not a lot to say, not a lot to do. You played the game.